très belle soirée, le journal.
Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir à toutes et à tous. Politique, la présidentielle, les tractations d'entre-deux-tours en ce vendredi, marquées par le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen et par la sortie du silence de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de Debout la France a annoncé à 20h sur France 2 qu'il avait signé un accord de gouvernement avec l'extrême droite. Pour Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise, en revanche, la vraie bataille se jouera aux législatives. C'est ce qu'il explique dans une vidéo publiée aujourd'hui. L'actualité en France, c'est aussi la poursuite du procès de la filière de Cannes-Torcy. 20 personnes sont jugées devant la cour d'assises spéciale de Paris, notamment pour un attentat contre une épicerie cachère de Sarcelles en 2012. Compte rendu d'audience dans ce journal de Florence Turme. Le pape François est arrivé en Égypte cet après-midi. Une visite pour la paix et le dialogue interreligieux, a-t-il expliqué. Ce soir, au Caire, il a visité une église copte, quelques mois seulement après l'attentat qui l'a touché. C'était en décembre dernier, correspondance de Mathilde Imberti dans ce journal. Et puis, l'arnaque du crédit impôt recherche en France. Cette réduction d'impôt consentie aux entreprises engagées dans l'innovation et dans le domaine de la recherche est, semble-t-il, bien souvent détournée, une fraude qui atteint des niveaux industriels, nous dira Marjolaine Corr. Marine Le Pen communiquera le nom de son futur Premier ministre, si toutefois elle venait à être élue, avant le second tour de la présidentielle du 7 mai. Elle en a fait la promesse ce soir, sans en dire plus sur le moment où sera faite cette annonce. Faut-il y voir un lien ? Nicolas Dupont-Aignan se rallie à l'extrême droite, au Front National et à Marine Le Pen. C'est ce qu'on a appris ce soir. Le président du parti Debout la France l'a annoncé sur le plateau du journal de 20h de France 2. Après avoir un peu plus tôt dans l'après-midi discrètement rencontré la candidate du Front National à Paris. Un ralliement qui se fait sur la base, d'après Nicolas Dupont-Aignan, d'un accord de gouvernement.
J'annonce officiellement que je soutiendrai Marine Le Pen, que je ferai campagne même avec elle sur un projet de gouvernement élargi. Et j'annonce aussi que nous avons, et je le dis aux Français qui viennent notamment de la droite et qui ont été trahis par les leaders de droite, que nous avons l'occasion de mettre fin à une cassure absurde entre les patriotes et les républicains. Et j'insiste sur un point, parce que c'est absolument vital pour l'avenir du pays, si l'on veut le redresser, c'est qu'il faut cette alliance. Mon parti, par exemple, Debout la France, continuera aux prochaines législatives, aura des candidats partout. Les Français auront le choix. Il y aura des candidats Debout la France face à des candidats Front National. C'est-à-dire que les Français conserveront le choix entre deux patriotismes, comme ils l'ont eu au premier tour de la présidentielle. Et je le dis, mon parti politique sera allié à Madame Le Pen. Et je suis convaincu que Madame Le Pen, avec mon soutien et avec une alliance équilibrée de gaullistes, d'humanistes, et je pense que beaucoup vont nous rejoindre, venant des Républicains, eh bien, cette nouvelle alliance offre un horizon totalement nouveau dans la vie politique française.
Et ce soir, le Front National annonce que Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan feront une déclaration commune demain matin à 11h à Paris. Dans le même temps, la candidate du Front National tente toujours de faire les yeux doux à gauche et notamment aux électeurs du premier tour de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Elle a publié une vidéo pour s'adresser à ses 7 millions d'électeurs aujourd'hui. Un grand écart politique pour le moins hasardeux, Stéphane Robert.
L'équation s'annonce très difficile à résoudre pour Marine Le Pen. En tout cas, elle la force à exécuter des contorsions improbables entre la droite et la gauche de l'échiquier politique. À droite, elle a multiplié les appels du pied en direction de Nicolas Dupont-Aignan, avec succès, puisqu'ils ont signé un accord de gouvernement. Elle essaie aussi de séduire une partie des électeurs de François Fillon, et ça en actionnant plusieurs leviers. D'un côté, elle appuie là où ça fait mal, accusant Fillon d'avoir trahi ses électeurs en appelant à voter Macron, manière pour elle de tenter de capter leur déception et leur amertume. Et de l'autre, elle essaie de rassurer sur les questions européennes et sur son projet de sortir de l'Union, en rappelant qu'elle prévoit d'abord des discussions avec Bruxelles, puis une consultation des Français par référendum, comme une manière de dire « rassurez-vous, si je suis élu, rien n'est encore fait ». À gauche, c'est la même chose en direction de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Elle reprend une partie de sa rhétorique, parlant de la France soumise d'Emmanuel Macron et reprenant sa formule sur le dégagisme. Elle appelle à faire barrage à son adversaire et à son programme présenté comme ultralibéral. Elle agite aussi quelques curseurs de gauche, comme la loi El Khomri, qu'elle promet d'abroger si elle est élue à l'Élysée. Bref, elle tend des perches tous azimuts pour essayer d'élargir sa base électorale avec un succès qui reste somme toute très limité, puisque selon toutes les enquêtes d'opinion, entre 15 et 20% seulement des électorats de Jean-Luc Mélenchon et de François Fillon envisageraient de voter pour elle contre Emmanuel Macron.
Stéphane Robert, Jean-Luc Mélenchon, qui était resté silencieux depuis dimanche dernier, a repris la parole dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube aujourd'hui, alors qu'il lui est reproché, notamment par Emmanuel Macron, et c'est encore le cas ce soir, de ne pas donner de consigne de vote pour le deuxième tour. Il persiste. L'ex-candidat de la France Insoumise a toutefois bien insisté sur le fait qu'il ne voterait pas pour Marine Le Pen, et il a ajouté vouloir conduire la campagne de la gauche radicale pour les législatives des 11 et 18 juin. Le procès de la filière djihadiste dite de Khan-Torsi se poursuit devant la cour d'assises spéciale de Paris. Aujourd'hui, c'était la fin de la deuxième semaine d'audience. 20 personnes sont accusées d'avoir perpétré un attentat contre une épicerie cachère de Sarcelles en 2012, mais aussi d'avoir eu des projets d'attaque contre des militaires et de projeter des départs en Syrie. Aujourd'hui, dans le cadre de l'étude de la personnalité des accusés, la cour s'est penchée sur le cas de Florian Le Seur. Il comparaît libre sous contrôle judiciaire. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
Il a 30 ans à peine et d'abord quelques difficultés à s'exprimer. Une voix traînante qui accroche le début des mots, mais qui peu à peu s'épanche sur sa vie. Un père transporteur, une mère infirmière, un frère converti lui aussi, une scolarité dans une école catholique et des problèmes pour trouver un travail. Des addictions, interroge le président. Oui, tabagisme et cannabis depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 10 joints par jour et toujours consommateur, mais plus dépendant. Il aime la peinture, le sport, et la Thaïlande a très mal vécu ces deux années de détention. Et vous êtes plus ou moins en dépression, questionne le magistrat. Oui. Vous voyez un psychologue? Non, ça ne sert à rien tant que je ne sais pas ce que va devenir ma vie. Au fil de l'interrogatoire, le discours devient plus fluide, plus argumenté, comme lorsque l'accusation aborde la radicalisation et la question des caricatures de Charlie Hebdo. On connaît tous la fin tragique des dessinateurs, répond Florian Le Seur, mais j'ai le droit de dire que Charlie Hebdo est allé un peu trop loin, comme ils l'ont fait lors du séisme en Italie avec ses dessins sur les victimes et ce commentaire « spaghetti à la bolognaise ». Et c'est lui qui questionne des désormais, ce genre de choses est-il acceptable? N'y a-t-il pas un minimum de respect à apporter? Et comment doit-on combattre le manque de respect, rétorque l'avocat général. Je ne vais pas chercher à châtier ce genre de personnes, répond l'accusé. Un problème ne peut pas se régler par la violence, car la violence entraîne la violence. Il faut, conclut-il, s'en remettre à Dieu.
Le pape François est en Égypte pour une visite de deux jours, une visite qu'il veut placer sous le signe de la paix et du dialogue interreligieux, notamment avec l'islam. Ce soir, le souverain pontife s'est rendu dans une église, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire, où 29 personnes avaient péri dans un attentat suicide, attentat revendiqué par le groupe État islamique le 11 décembre dernier. Mathilde Inverti.
C'est un voyage de fraternité et d'unité, nous a dit le pape François, dans l'avion entre Rome et le Caire. Les attentats vivent à briser l'unité du peuple égyptien, avaient déploré les autorités chrétiennes après le double attentat du 9 avril en Égypte, un attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Unité des Égyptiens, quelle que soit leur religion, et le pape François a insisté auprès des autorités sur la nécessité de défendre la liberté religieuse pour tous, chrétiens compris. Ensuite, oui, ce voyage vise à consolider le dialogue entre le Saint-Siège et le monde sunnite, l'université Al-Azhar. Il a repris avec beaucoup de difficultés ce dialogue l'an dernier. Après 5 ans de relations glaciales, Al-Azhar avait interrompu les relations avec Rome suite à des propos de Benoît XVI qui, selon Al-Azhar, représentaient une ingérence dans les affaires égyptiennes. Il a fallu nombre d'allers-retours au Caire, d'entrevues avortées avant d'aboutir à une réconciliation. Et cette réconciliation est indispensable aux yeux du Vatican face au terrorisme et à l'utilisation impropre de la religion comme moteur de violence. Le grand imam d'Al-Azhar a de son côté déclaré que l'islam n'est pas une religion de terrorisme.
Mathilde Imberti, il est 22h10 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du vendredi soir avec le service investigation de Radio France. Bonsoir Marjolaine Corr.
Bonsoir.
Vous avez mené l'enquête sur l'arnaque au crédit impôt recherche, ce coup de pouce fiscal accordé aux entreprises qui innovent et qui font de la recherche. Il a été, au fil des années, complètement détourné.
Oui, ce crédit d'impôt a été créé pour soutenir les entreprises qui investissent dans la recherche. Mais non seulement son coût a explosé, il est passé de 1,8 milliard d'euros en 2007 à 5,8 milliards d'euros en 2011, mais surtout, il s'est développé une véritable industrie de la triche. Écoutez ce témoignage d'un ex-salarié d'une société basée à Sofia Antipolis. Son employeur lui avait demandé de bidonner un rapport pour faire croire au fisc que son entreprise faisait de la recherche.
Ce qu'on m'avait demandé de faire, c'est finalement de créer des faux articles de recherche. Et l'idée, c'était de prendre des articles existants en anglais et qui avaient un lien avec notre domaine de travail, en fait. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait ces articles, on les traduisait en français et on les triturait pour qu'ils ressemblent plus trop à l'article original.
Incroyable témoignage, Marjolaine, mais on trouve aussi des sociétés de conseil qui proposent aux entreprises des dossiers clés en main, tout aussi bidons.
Oui, j'ai rencontré l'un de ces conseillers qui a accepté de me parler sous le sceau de l'anonymat. Ses propos sont donc lus par un journaliste et lui m'a raconté comment il a appris à fabriquer de faux rapports pour frauder le fisc.
Au départ, j'essayais de glaner des informations auprès des clients, mais ce que je récupérais était indigent. Je voyais qu'ils n'avaient rien à me dire. J'ai donc adopté une autre stratégie. Je repère ce qui est innovant dans leur procédé ou ce qui pourrait l'être, et je vais chercher des thèses qui correspondent à ce domaine. Ensuite, je brode, j'imagine les recherches qu'auraient pu faire les entreprises. Le plus amusant, c'est que souvent, les entreprises s'approprient le rapport et ont l'impression d'avoir vraiment mené ces recherches. J'ai même un client qui communique sur des éléments de mon rapport et à qui ça a donné des axes de développement après coup.
Alors une des questions que pose votre enquête, Marjolaine, c'est comment peut-on tromper aussi facilement le fisc ? Est-ce qu'il ne contrôle pas ces entreprises ?
Alors si, bien sûr, hein, mais ça demande tellement de moyens et de temps que dans certaines régions, comme en Rhône-Alpes-Bourgogne, la Direction Générale des Finances Publiques a fait passer une directive pour laisser tomber les petits dossiers. Écoutez un extrait du courrier.
Un dossier sera considéré comme étant à enjeu à partir des montants suivants. Crédit d'impôt annuel supérieur à 100 000 euros. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour mettre en œuvre ces recommandations qui s'imposent à nous, compte tenu du contexte général lié au contrôle du crédit impôt recherche.
Voilà donc pour le courrier officiel. Donc si je suis chef d'entreprise, Marjolaine, et qu'on m'accorde moins de 100 000 euros de crédit d'impôt, je n'ai aucun risque finalement d'être contrôlé.
C'est ça. Et si on vous accorde plus, eh bien dans les faits, vous avez peu de chances de vous faire contrôler. C'est ce que nous explique Anne Guyot-Velk, secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques, le principal syndicat des impôts.
Certains axes de recherche, on sait qu'on ne part pas pour 3 mois dans une entreprise, pour beaucoup plus longtemps. Il nous faut de tels moyens, nous derrière, et c'est pour nous, côté contrôle fiscal, assez compliqué, on va dire, de vérifier le fondement de ce crédit impôt recherche.
Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2016, seulement 4% des entreprises ont été contrôlées.
Et alors la question qui vient maintenant, Marjolaine, c'est pourquoi est-ce qu'on laisse ce système de fraude et ce système tout entier dériver ?
Eh bien parce que ce crédit d'impôt est considéré par le gouvernement comme un instrument indispensable pour attirer des investisseurs étrangers en France. C'est ce que pense l'économiste Dominique Plion.
Les gouvernements, les uns après les autres, successifs, ils pensent que les entreprises étrangères, les investisseurs internationaux, viendront sur le territoire français pour y investir, pour y implanter des entreprises, s'ils savent que les conditions fiscales leur sont favorables. Or, en France, on dit souvent le niveau d'imposition, de taxation des sociétés est important, mais on dit attention, il y a des niches fiscales très importantes, mais finalement, ces aides n'ont pas un impact significatif et démontré sur la compétitivité par rapport à leurs concurrentes étrangères.
Et ce qui semble lui donner raison, c'est qu'on assiste, entre autres exemples, actuellement, à la fermeture de tous les centres de recherche Intel en France, 750 emplois supprimés. Mais alors, à contrario, ce constat fait dire à d'autres experts que si cette niche fiscale n'existait pas, ce serait peut-être tout un pan de l'innovation française qui s'effondrerait.
Merci Marjolaine Corr. Votre enquête est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Un temps changeant demain avec, d'après Météo France, une alternance entre soleil et éclaircies et des températures toujours fraîches. Attention aux gelées blanches au lever du jour, en particulier sur la moitié sud, où le ciel dégagé du petit matin laissera la place à des nuages potentiellement porteurs de pluie. Température minimale de moins 2 à 6 degrés, 14 à 20 degrés attendus pour les maximales dans l'après-midi.